Eugène Mouton. Papa, par une belle matinée de septembre 1873, le beau et puissant vapeur à aube Brittany venait de Southampton à Jersey et déposait le long du pier de Saint-Hélier d'abord les mâles royales, puis une cargaison de voyageurs dont la plupart étaient des touristes venus là de tous les points de l'Angleterre, les uns pour visiter en courant le lieu d'excursion catalogué dans Murray, et les autres pour y séjourner quelque temps et pour, sans trop se presser, jouir des beautés de l'île qui sont célèbres. Parmi ces passagers, trois personnages doivent appeler notre attention. Le premier s'appelait Thomas Farbull, le second John Farbull, et le troisième, qui était une femme, était connu à Londres et ailleurs sous les noms de Catherine Jenkins ou familièrement Kate Kim, selon le cas. Thomas Farbull était ce qu'on appelle un homme intéressant. Il était le fils de ses œuvres. À 14 ans, il débarquait aux Indes. À 24, il en revenait riche. À 30, il était très riche et se mariait. À 40, il était opulent. Et à 45, millionnaire. Veuf et père d'un fils unique, John, son compagnon de voyage au moment où nous avons notre histoire. Quant à Catherine Jenkins, je n'oserais pas vous dire que ce fut une aventurière, mais je suis obligé de convenir que c'était une intrigante. Il est malheureusement trop certain qu'elle appartenait à une espèce d'échassier voisine des cigognes qui chaque printemps s'envole par troupes de Paris, de Londres, de Bruxelles et de Vienne pour aller s'abattre sur les villes d'eau ou sur les grèves poétiques de Trouville, Biarritz et autres lieux. Catherine, appelons-la une fois Kate, n'ayant pas attendu d'être débarquée à Jersey pour se mettre en chasse. Après une rapide revue du personnel embarqué à bord, après avoir écouté chaque passager donner son nom et sa résidence à mesure que chacun payait sa place au lieutenant, ayant dûment jaugé et estimé du coin de l'œil les bagages des voyageurs, elle avait jeté son dévolu sur Thomas Farbull, d'abord parce qu'il était en grand deuil, qui signifiait héritage ou même veuvage, et puis parce que sa qualité de père, c'était lui qui devait diriger le voyage et fournir l'argent. Kate ne voyageait jamais sans deux chiens, tous deux exactement pareils, tous deux admirablement dressés. Il n'en paraissait jamais qu'un. L'autre était tenu caché. Il était destiné à remplacer son camarade en cas de maladie ou de mort. On a vanté les chiens d'aveugle. Qu'est-ce en comparaison des chiens de sourde à la voix de l'honneur? Ce qu'on apprend à ces petits animaux est quelque chose d'admirable. Non seulement ils rapportent, mais ils arrêtent. Ils sont de plus en plus à la fois limiers pour découvrir le daim, chiens courants pour le ramener sur le fût, chiens de garde pour empêcher les surprises et chiens de correspondance pour porter les billets et donner l'adresse de leur maîtresse en faisant voir au monsieur leur collier où elle est gravée. En conséquence de ces observations, Kate lança son chien sur le Fistfumble, calculant que c'était le plus sûr moyen d'attirer le père. Rien, Kate se savait très adroite à ce coup-là. Elle appelait le carambolage. Elle se vantait de n'en avoir jamais manqué un. Mais cette fois-ci, le chien eut beau s'escrimer, il eut beau déployer toutes les finesses de son jeu, rien n'y fit. Le jeune homme se laissa agacer, caresser, lécher, sans jeter un regard sur l'inscription gravée au collier du batou, sans paraître s'apercevoir qu'il appartint à l'infortuné Kate, quoique celle-ci eut 10 fois rappelé le chien pour le prendre sur ses genoux. Mais Kate n'était pas femme, fille, si vous voulez, à décourager pour si peu. Elle avait, pour les cas désespérés, un dernier coup qui ne manquait jamais son effet. Celui-là s'appelait le coup du lapin. Elle mit son chien à terre et le pinçant cruellement à un endroit qu'elle connaissait et où ce pincement avait pour effet d'exaspérer Azor, elle le poussa dans la direction du jeune homme en soufflant à l'oreille du chien ce seul mot « Chix !» Azor, hurlant de rage, se précipita sur le mollet gauche de John Ferble et lui fit à la hauteur du 2e tiers inférieur du bas de la jambe une morsure cruelle. John se dressa comme un ressort. Il sautilla 3 fois à cloche-pied en tenant dans ses mains le mollet endommagé. Ses lèvres se contractèrent dans un effort terrible comme pour articuler un son qui aurait pu sortir. Et enfin, soulevant sa poitrine et ouvrant une bouche énorme, il lui hurla, mais d'une voix qui n'avait rien d'humain, ce seul mot « Papa, papa !» À ce mot, Ferber intercourut auprès de son fils, tandis que de l'autre côté se précipitait Kate. La bonne créature, après avoir vigoureusement corrigé Azor, qui subit la correction en compère, consommé, se roulant, se rasant, descendant, demandant grâce, fit 1000 excuses au père et au fils. Ce dernier ne répondit point. Quant au père, après avoir relevé le pantalon de son fils et s'être assuré que le mollet en serait quitte pour son pinçon, il remercia la dame de se repentir et après quelques compliments qu'il serait trop long de rapporter, il lui apprit que son fils John était sourd-muet, mais qu'on avait pu lui apprendre à lire « papa ». Tout s'expliquait, rien n'était désespéré. Le coup du lapin avait porté si bien qu'une heure plus tard, Thomas Farrell était sous le charme et qu'en arrivant à Saint-Hélier, il était absolument hébété et ne se défendait plus. Kate, comme bien vous pensez, lui avait fait voir du chemin. Cette créature, bâtie pour les voyages de long cours, ne connaissait pas plus ce mal de mer que les menues misères de la vie. Elle était fille d'une écuyère écossaise et de plusieurs matelots et quartiers-maîtres des cases-escales de Sa Majesté britannique. C'était une coque de bois de teck créée en sapin de Californie. Elle avait, comme on dit, par tous les temps, ça allait. Et au milieu des honnêtes femmes qui de tous côtés soupiraient leur repas de la veille, laissant aller à volo leurs cheveux et leurs toilettes, la vigoureuse créature, fraîche comme la rose, n'avait d'autre souci que d'utiliser le roulis pour se donner des balancements de torse et de hanches qui plongeaient Thomas Ferbol dans un hypnotisme de plus en plus profond. Mais tout en jouant de la prunelle, tout en s'ajustant des épingles derrière la taille, tout en cambrant son pied, tout en grattant du petit doigt le bout de son oreille, tout en jouant avec ses petits cheveux, elle confessait et les désirs fous qu'elle héritait dans cette grosse chair rouge étaient plus puissants pour arracher les aveux du patient que toutes les tortures du Moyen-Âge. Alors il lui raconta sa vie. Oh, c'était une histoire bien simple, et cependant tout autre qu'une confidente de cette espèce en aurait été vraiment attendri. Il avait passé 45 ans à travailler, du matin au soir, aussi étranger au monde et à ses joies que la machine commerciale à laquelle sa vie était liée comme par un engrenage. La jeunesse, l'amour, le mariage, la richesse avaient passé dans son existence sans qu'il se sentît, sans qu'il s'en touchait, comme un rêve. La mort de sa femme, qu'il adorait sans l'avoir su, l'avait éveillé, et la douleur dont il avait entendu parler, sans l'avoir jusqu'alors vraiment comprise, lui avait appris pour la première fois qu'il avait un cœur. Kate, sans s'impatienter, lui donnant la réplique de jolis mouvements de tête, lui laissa raconter comment il avait senti l'amour paternel se glisser doucement à la place du chagrin, et l'affection pour la femme qu'il avait perdue se reportait tout entière sur le pauvre sourd-muet. Oh, cela aurait été touchant si Kate ne l'avait trouvé un peu long. Mais elle le laissa aller tant qu'il voulut sur ce chapitre, et quand il eut fini, elle commença. Elle divisa son opération en deux parties. Dans la première, elle fit faire à Thomas Thurbull son bilan. Il lui donna l'état de son portefeuille, lui dit combien il avait de maisons à Londres et à Calcutta, combien de bâtiments sur la mer. Il nomma l'un après l'autre ses chevaux et ses domestiques, et Kate, presque épouvantée de l'énorme proie qu'elle sentait palpiter entre ses griffes, se disait déjà en elle-même « Mais comment ferais-je pour manger tout ça ?» La seconde passe fut plus délicate, mais terrible. Il s'agissait de révéler à Thomas Thurbull la vérité sur lui-même. Il s'agissait de lui dire « Vous n'avez pas eu de jeunesse. Ce besoin d'amour que les plus misérables peuvent satisfaire au moins un jour dans leur vie, vous l'avez étouffé jusqu'ici. Mais maintenant, c'est lui qui vous étouffe. Et vous, millionnaire, vous qui n'avez qu'à vouloir, vous n'osez pas. Ne voyez-vous pas que la vieillesse est déjà sur vos talons? Voulez-vous donc mourir sans avoir connu le plus doux des liens de la vie? Vous ne voulez pas? Hâtez-vous donc. Une occasion perdue ne se retrouve jamais. Et d'ailleurs, tel que vous êtes, croyez-vous en trouver beaucoup d'autres? À Londres, vous pouviez craindre le scandale, mais ici, sur ce terrain neutre, autant en emporte le vent. Fou que vous êtes, laissez-nous donc aller dans ces beaux bras blancs qui s'ouvrent pour vous recevoir. Vous verrez comme c'est bon de sentir une tête blonde se pencher sur votre épaule. » Elle lui dit tout cela dans le langage muet de la tentation, plus puissant et plus irrésistible que toutes les combinaisons de la ruse féminine. Et lorsqu'elle eut fini, elle put se dire « je le tiens !» En débarquant, Kate fit semblant de vouloir loger dans le même hôtel que Thomas Thurbull. Elle consentit sans difficulté à monter dans le même fiacre pour aller à Imperial Hotel et y fit descendre ses bagages, tandis que Thomas Thurber s'y installait. Mais le soir, à dîner, l'infortuné apprit que la dame était partie vers 3 heures avec ses bagages, en compagnie de ses amis de Saint-Hélier, et que probablement elle était allée se loger dans une maison particulière. Tout le reste fut à l'avenant. Saint-Hélier est grand comme la main. Pendant 3 jours, elle se fit courir après, tantôt se laissant apercevoir en voiture, tantôt se dérobant sans de laisser de traces. Et le 4e jour, elle lui avoua son adresse. Le 5e, elle lui permit de venir chez elle. Et le 6e, elle le reçut. Elle était installée chez une respectable personne dont la spécialité lui était connue depuis longtemps, et qui faisait profession de loger décemment et fructueusement les jeunes personnes sans appui. Moyennant la promesse d'une forte rémunération en cas de réussite, cette bonne dame s'engageait à fournir tous les accessoires, figurants et compères dont on aurait besoin. 4 jours d'un traitement judicieux avait par degrés amené Thomas Thurber à un état de congestion cérébrale que l'urgence d'une conclusion devenait évidente. Comme une machine chauffée au rouge-blanc, Thomas Thurber menaçait d'éclater. « Kate, » dit la prudente hôtesse à sa locataire, « croyez-moi, je me connais en apoplectique. » Puisque j'ai fait presque toutes mes études et mes affaires avec des messieurs de ce tempérament. Si vous tenez celui-ci encore 3 jours à ce régime, il vous claquera entre les doigts. Le lendemain, après une séance où elle promettait de couronner positivement sa flamme, Kate consentit à aller avec ce Thomas Farewell visiter les caves du Piémont. À l'instant précis où Thomas Farewell, à genoux au pied de sa bien-aimée, fourrait sa tête dans le lit cool qu'elle avait eu tant de peine à obtenir et à l'aide duquel Kate devait le conduire à sa ruine, un 4e personnage, destiné par la Providence à jouer un rôle inattendu dans cette histoire, débarquait, ou plutôt était débarqué, dans le plus grand mystère sur le quai de Saint-Hélier. Dans le plus grand mystère est ici bien à sa place, car moi-même je ne pourrais vous dire quel était ce personnage, attendu qu'il était enfermé dans une grande caisse fort longue, que la grue à vapeur du steamer courrier arrivant de Cordouville souleva du pont et déposa sur le quai. Ne pouvant vous donner aucun renseignement sur le nouvel acteur qui vient d'entrer en scène, mais qui va travailler consciencieusement, n'en doutez pas, pour mériter vos suffrages au moment où il s'agira de vous montrer ses petits talents, je vous demande la permission de revenir à Kate et à Thomas, comme ils s'appelaient déjà dans l'intimité. En sortant de cette entrevue décisive, au moment où, se retournant une dernière fois, il envoyait de sa grosse main rouge un baiser à sa bien-aimée, très chère et jolie, Thomas Farewell était le plus heureux des hommes. Mais que devait-il, grand Dieu, que devint-il, lorsqu'il se retrouva devant son fils? Devant cet être dont l'innocence était pour lui le plus vivant, des reproches. Reproches muets, hélas, mais plus éloquents que les sermons de pasteurs de l'église anglicane tout entière. Chaque fois que le pauvre sourd-muet, avec son air de simplicité angélique, lui disait « Papa, Le cœur du tendre père se tordait de honte, de remords, mais surtout de tendresse. Et alors, c'était des angoisses, c'était des combats. Seul avec son fils, Thomas se sentait redevenir pélican. Dans ces moments, il aurait saigné son cœur pour mourir de son affection, cet enfant qu'il aimait mieux que lui-même. Mais dès que Kat paraissait, le pélican repliait ses ailes, prenait quatre pieds et deux cornes et devenait taureau. Et puis parfois, dans les rêves apocalyptiques, Thomas Féroul voyait le taureau et le pélican se livrer des batailles en piétinant sur le corps de son fils. Ceci vous représente le combat de l'amour paternel avec la passion charnelle ou, plus simplement, la lutte du bien et du mal. C'est émouvant. Le sourd-muet était donc un obstacle. Et Kate, qui s'en apercevait bien, savait que même pour un rendez-vous avec elle, Thomas Ferboul ne se consentirait jamais à laisser son fils soit à l'hôtel, seul pendant une journée. Ce fut là que la logeuse se distingua. Avec un vieil officier destitué pour indélicatesse, une banque routière portugaise et trois filles des rues, elle avait composé une famille respectable qu'elle convoquait en séance dans une des chambres meublées de sa maison toutes les fois que Kate donnait elle-même séance à Thomas Ferboul. Le jour de la partie aux caves de Plémont, cette honorable famille avait invité le sourd-muet à une matinée dansante que les demoiselles de la maison donnaient à leurs amis et, sur le conseil de Kate, Thomas Ferboul, que cette combinaison en courage soulagé d'un grand poids, avait accepté pour son fils. Ici, dans l'ordre des déconvenances littéraires, se placerait avec avantage une description pittoresque et sentimentale des caves de Plémont. Ces grottes réunissent tout le confortable et tout l'agencement qu'on peut désirer. Vénus et l'amour semblent avoir ménagé ces asiles aux amants en quête d'un endroit pour nicher. Il faudrait n'avoir jamais lu l'Énéide ni Télémaque pour ignorer à quoi servent les grottes. Kate, sans connaître ces estimables ouvrages, avait assez d'expérience pratique pour compenser ses insuffisances littéraires. Elle connaissait les caves de Blémont. Elle savait qu'on y trouvait en tout temps de l'obscurité et du sable sec. Elle n'en demandait pas davantage. Vers 2h45 de relevé, Kate, tendrement suspendue au bras de Thomas Farouville, quittait à petits pas sous l'arcade de la grande grotte. Elle tourna d'abord à droite pour visiter une grotte voisine, où tombe une cascade et où passe le câble télégraphique, puis revint peu à peu vers la grande grotte, et après avoir folâtré et sautillé de droite et de gauche parmi les rochers, elle se retira sensiblement vers le fond où la voûte s'abaissait en tournant un peu. Alors, se plantant tout droit sur une place couverte de sable bien doux, elle y marqua l'empreinte d'un de ses pieds mignons et, penchant la tête avec un sourire plein de promesses, elle pointa son doigt sur l'empreinte en disant « À Thomas Ferboul, là, au moment où tout paraissait perdu, au moment où l'amour paternel et la pudeur, tout meurtri d'avoir été foulés aux pieds, allaient sortir désespérés de la grotte bras-dessus, bras-dessous, comme des vertus qu'on vient de casser au gage et qui vont chercher une autre condition. Un cri rauque et guttural, un cri menaçant et lamentable, comme les accents de la trompette du jugement dernier, éclata du côté de l'ouverture de la caverne et alla se répercuter en grondant jusque dans les dernières profondeurs. Bah! À ce moment, ce cri, Thomas Ferbel, foudroyé, pâle de remords, se dressa sur ses pieds et, regardant avec horreur la vile créature couchée devant lui et muette, elle-même d'effroi, prit sa course à travers les rochers et les flaques d'eau et s'enfuit en criant: Oh, mon pauvre John! Papa ne t'abandonnera jamais! Un choc épouvantable renvoya 10 pas en arrière. Un homme courait aussi vite que lui et se précipitait dans la grotte. Tous deux, à peine raffermis sur leurs jambes, coururent de nouveau l'un sur l'autre et le nez en avant, l'air égaré, se prenant la main, s'écrièrent en même temps: L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Ils restèrent une seconde en arrêt, puis ils reprirent d'une voix altérée: Il a dit papa. Pff. Il a dit papa. Oh, c'est mon fils. C'est mon phoque. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Allez au diable. Allez au diable. Et chacun ayant donné à l'autre un bon coup de poing, ils se séparèrent. Thomas Ferbel grimpa comme un fou le long de la falaise, et l'homme s'engouffra dans la grande grotte comme un ouragan. Thomas Ferbul fit atteler la voiture, partit au galop pour Saint-Hélier, prit son fils, fit ses malles, et il s'embarqua le soir même pour Southampton. Quant à l'homme, on l'entendit tournoyer quelque temps dans la grotte, en criant comme un possédé, puis des cris aigus de femmes commencèrent à dialoguer avec lui, et enfin, certains beuglements d'un timbre indéfinissable vinrent compléter un trio véritablement phénoménal. La scène qui suivit fut digne de cette ouverture à grand orchestre. Au seuil de la grotte, l'air vainqueur et inspiré, les cheveux ébouriffés, les habits en morceaux, l'homme apparut, tirant de sa main droite un phoque et de la main gauche une femme. Le phoque pour nageoire, comme un enfant qui ramène à l'école, et la femme par les cheveux, comme une victime qu'on traîne à l'autel. Là, il s'arrêta, et mettant le pied sur la jupe de Kate pour l'empêcher de se relever, il passa lestement un nœud coulant à la queue du phoque, attacha de l'autre bout un des pieds de Kate, et alors, sûr de sa double capture, se répandit en invectives contre la malheureuse, l'accusant de lui avoir volé son gagne-pain, lui permettant qu'il la ferait pendre. Elle eut beau faire, il lui fallut monter, accouplée avec le phoque jusqu'à l'auberge. Là, tout s'expliqua et l'innocence de Kate fut rétablie. L'homme raconta alors que son phoque, phoque savant, qui disait papa, s'était échappé à Saint-Hélier de Summingbourne, où il l'avait mise en pension, et que grâce à de bons renseignements et d'actives démarches, il avait pu enfin retrouver son poisson. On réintégra le phoque dans une caisse pleine d'eau de mer, Et comme Bouquet n'avait pas d'autre moyen de transport pour retourner à Saint-Hélier, elle dut se résigner à profiter de la charrette qui emportait l'amphibie. Heureusement, il faisait nuit. Le soir de ce jour mémorable, chacun était rentré à sa place. Kate dans son hôtel garni, Thomas Ferbel dans le sentier de vertu, et le sourd-muet dans ses droits à l'affection de son père, et le phoque dans sa baignoire. À une époque où tous les esprits sainement démocratiques se préoccupent à si juste titre du problème insoluble de l'instruction des classes laborieuses, un grand enseignement doit jaillir de cette histoire, car on y peut voir comment, réduit pour toute instruction à savoir dire papa, un simple phoque a pu sauver la vertu, confondre les vices, protéger la faiblesse, rendre un gagne-pain à son maître, et enfin s'arracher lui-même aux égarements de la liberté.